Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous, ici Camille Chai, j'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas c'est le cas pour moi, parce qu'aujourd'hui, comme à chaque émission d'ailleurs, je reçois des invités qui sont extraordinaires et j'ai toujours un grand plaisir à les recevoir. Et mes deux invités aujourd'hui sont deux personnes qui sont non seulement passionnées par leur métier, mais elles sont aussi deux personnes dévouées dans leur rôle de parents. Alors j'ai choisi deux citations qui m'inspiraient, sachant que je les reçois aujourd'hui. Et je vous lis la première qui est la suivante. « Être un père ou une mère signifie offrir à ses enfants la liberté d'être soi-même. » Ça, c'est la citation d'Éric de la Parapaz. Et ma deuxième citation qui est tout aussi belle. « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Et c'est nul autre que Nelson Mandela. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Louis Bourassa et Lucila Guerrero. Vous écoutez Les Passions de Camille. Alors, je débute avec mon cher invité qui est avec moi en studio, Louis Bourassa. Bienvenue.
Merci, bonjour, ça va bien?
Bien, et toi?
Oui, ça va bien.
Louis, c'est un plaisir pour moi de te recevoir parce que, il faut que je le dise, bon, tu es depuis très longtemps le directeur du programme Les Vainqueurs pour les jeunes des amputés de guerre. Mm-hmm. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans mon émission jusqu'à maintenant, mais j'aurais pas pu faire autrement parce que pour moi, les amputés de guerre, c'est ma deuxième famille, j'en fais partie moi-même depuis l'âge de je dirais, 2 ans à peu près, hein.
Ça fait longtemps, là, dans le sens de la famille, oui.
Donc, Louis, on se connaît. En fait, moi, je te connais depuis toujours, pour dire vrai.
Mm-hmm. C'est vrai, on se connaît depuis toujours. Je me souviens de toi très jeune et c'est beau de voir comment belle tu es rendue.
T'es gentil. Mais je trouve important, je voulais te le mentionner, que pour moi, il y a quelque chose de significatif dans le fait de te recevoir aujourd'hui parce que, via les amputés de guerre, vous nous avez formés à donner des entrevues, faire des présentations dans les écoles pour sensibiliser les jeunes aux différences, aux handicaps. Mais c'est avec toi, Louis, que j'ai fait ma première entrevue télé et ma première entrevue radio. Les deux, je les ai faites avec toi et j'ai encore des images de ma première entrevue à la télévision. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
Oui, je m'en souviens et je me souviens aussi de l'entrevue radio. Puis là, c'est comme au début de l'émission, je disais, les rôles sont changés, là, c'est moi qui reçois les questions.
Exactement. Donc, on boucle la boucle, c'est à mon tour voilà. De te recevoir, alors que c'est toi qui m'as initié à tout ça. Donc, je suis très contente de te recevoir. Puis là, oui, tu es le directeur du programme Les Vainqueurs, donc on peut en parler un peu, mais je veux surtout t'entendre parler de toi, de la personne que tu es.
D'accord.
En fait, Les Vainqueurs, pour que les gens qui ne connaissent pas ça, rapidement, c'est quoi?
En fait, c'est le nom que l'on donne aux enfants amputés qui sont inscrits à l'association. On ne les appelle pas les enfants amputés. On les appelle avec la connotation positive les vainqueurs. Alors, les vainqueurs, c'est les jeunes amputés qui font partie de l'association des amputés de guerre.
Tout simplement. Mm-hmm. Et les conseillers juniors aussi sont des personnes qui sont importantes parce que c'est, je pourrais dire, les adolescents, en fait. C'est les vainqueurs une fois qu'ils ont grandi.
Oui, c'est ça. Hein. C'est difficile de parler des conseillers juniors sans mentionner le rôle important qu'ils ont sur les enfants. C'est comme si c'était des modèles. Jeune, je voulais être conseiller junior. J'ai été conseiller junior. Alors, beaucoup de jeunes grandissent au sein du programme et veulent s'impliquer. Et être conseiller junior, c'est une belle façon.
Mm-hmm. Et toi, Louis, est-ce que tu as été conseiller junior aussi dans ta vie à un certain moment?
Ben oui, moi, c'est drôle quand ça a commencé parce que là, on parle du début du programme pour enfants amputés les vainqueurs. J'ai été inscrit en 78, ça a commencé en 75. Alors, les séminaires les vainqueurs, on était 20-quelques, là, c'était vraiment... Vrai. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de prendre en charge les enfants. Et j'étais dans les plus vieux, puis là, ils m'ont dit, t'aimes ça les enfants? Ben oui, fait que là, on s'est occupé des enfants et c'est comme ça que... Si on veut, le rôle de conseiller junior durant les séminaires Les Vainqueurs a pris forme. Mm. Mais après ça, on a décidé qu'ils étaient pour être des porte-parole. Mm-hmm. Alors, on se fiait aux adolescents, et encore aujourd'hui, pour représenter l'association.
Exactement. Oui, et puis en plus, les séminaires des amputés de guerre, moi, j'y participe depuis toujours parce que c'est un moment où ben, on peut, entre jeunes et entre parents aussi, on peut ben, échanger, passer du temps ensemble, puis c'est très rassurant, ça fait du bien, surtout bon, quand un enfant est très jeune ou pour ceux qui vont perdre un membre, soit à cause d'un accident ou d'une maladie. Quand j'ai dit que c'est une deuxième famille, mais c'est vraiment le cas.
Oui, c'est vrai. Je me souviens d'un atelier que j'avais suivi en tant que vainqueur. Ben, j'étais adolescent. Puis ça me tracassait beaucoup, puis je n'avais jamais posé la question à mes parents. Et puis c'était une jeune femme qui était mariée, qui avait deux enfants, qui était amputée des deux jambes. Mm. Puis moi, c'était quelque chose qui était très important pour moi de savoir si j'étais pour trouver l'âme sœur, me marier peut-être. Ou enfin, mais je pense que cette inquiétude-là, tout le monde l'a, mais peut-être que je focusais trop sur mon amputation, je ne sais pas. En fait, je me suis levé et j'ai posé la question. Tu sais là, et... Le fait de voir cette personne-là répondre de façon calme, naturelle, OK, si elle est capable, moi aussi je vais être capable. C'est un peu ça l'essence qu'on voit dans les séminaires.
Ah, complètement, complètement. Ça fait du bien à tout le monde. Et là, ben, évidemment, parlons-en, parce qu'on parle de ton amputation. C'est pas par hasard non plus que tu es aux amputés de guerre depuis des années. J'aimerais que tu nous parles de ton amputation et de ton accident.
Oui, c'est un accident à l'âge de 4 ans. Bon, tout bête, là. Mon père, même s'il m'avait dit souvent de ne pas m'approcher des tracteurs de pelouse, je suis allé quand même. Et puis, je suis monté sur la machine. Et là, à cause de l'herbe mouillée, j'assume, là, j'ai glissé puis j'ai passé en dessous. Puis là, la jambe m'a coupé tout de suite. Je me souviens pas vraiment de mon accident. Quand je raconte ça, c'est plus l'histoire qu'on m'a raconté de mon accident. Tu sais, là, je peux pas dire que je me souviens. J'ai des flashs de mon accident, mais je raconte l'histoire qu'on m'a racontée. Là, mais
c'est oui, parce pas
que ce soit passé, par exemple. C'est vraiment passé.
Parce que tu avais 4 ans, donc ouais, voilà. Oui, si on se demande est-ce que je me souviens de ma vie à mes 4 ans, bon, un accident, c'est un élément marquant, mais quand même. Puis tu habitais dans les
cantons de l'Est. Pas loin de Sherbrooke, un petit village. Et puis, pour moi, l'amputation sur le coup, je ne crois pas avoir été traumatisé par ça parce que j'étais sûr que c'était pour pousser cette jambe-là. Tu sais, on se fait couper des ongles, des cheveux, mais des jambes, non. Bon. Lorsque j'ai appris que ça ne repousserait pas, là, peut-être que c'était... J'ai reçu un coup, mais ma mère m'a tout de suite dit, c'est pas grave, tu vas avoir une jambe en plastique et puis quand les gens vont te piler sur le pied, ça te fera pas mal. Là, tu fais comme enfant, c'est tout ce que tu veux entendre. Là, oui. OK, on va passer au travers.
Oui.
C'était beaucoup plus difficile pour mes parents, l'entourage. Mais moi, en fait, à l'hôpital, bon, il y a toujours la souffrance des opérations et tout ça, là. Oh, oui.
T'es resté longtemps à l'hôpital,
d'ailleurs. Oui, c'est ça. 3 mois, c'est long pour un jeune, hein?
Oui.
Fait que je restais tout ce temps-là. Et puis, j'ai pas de souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs de mon séjour à l'hôpital, mais pas de souvenirs traumatisants ou des choses comme ça. C'était, bon... Et c'est le retour à la maison qui est un peu différent parce qu'à l'hôpital, j'étais gâté. Hein? Alors, je recevais du chocolat, des toutous, des jouets. Et à la maison, quand je suis revenu, là, ma mère a dit, là, c'est terminé, là. Je vais t'élever comme tes 3 sœurs.
Mmh, et, vous étiez 4 à la maison.
Oui, oui. J'ai une sœur jumelle et 2 grandes sœurs. Alors, là, ça a changé la dynamique complètement. Et puis, ça forge un peu le caractère. Ça fait partie de qui tu es. Mais je n'avais jamais rencontré de personne amputée encore, là.
Mmh.
Fait que j'étais un peu... la petite vedette, tu sais, les gens me voyaient dans la rue comme un petit garçon blond qui se débrouille avec ses béquilles ou avec sa prothèse. Fait que c'était peut-être qu'il y avait de la pitié dans le regard, mais à 4 ans, la pitié, elle te glisse sur le dos, tu t'en rends pas compte.
Non,
hein?
Non.
Puis, et c'est plus tard que là, j'étais pas Louis, j'étais le petit garçon à jambes coupées. C'est comme si j'avais pas le droit d'avoir ma personnalité.
Oui, identité, c'était par ton accident qu'on te définissait.
Voilà. Ah, ça j'étais fâché.
Ouais, quand même.
Puis là, j'essayais de prouver, vois-tu, la notion de prouver aux autres que j'étais capable de faire des choses, même si j'étais amputé. Alors ça, ce mécanisme-là est complètement disparu quand j'ai rencontré d'autres personnes amputées. Je vais faire ce que je veux faire, puis bon.
Sans pression, moins de pression.
Voilà, c'est ça. Puis c'est pas pour impressionner la galerie, c'est mes limites que je veux trouver. Et... mes nouvelles limites, peut-être. Alors, ça a forgé un peu ma vie, mais de rencontrer d'autres personnes qui sont passées par là, là ça fait du bien.
Ah, ça, on s'entend tous, on est tous d'accord là-dessus. Mais je suis curieuse parce que tu me parles de ta mère qui t'a tout de suite aidé à voir transformer le négatif en positif. une notion, une valeur que tu as gardée en toi depuis mm-hmm. toujours. Mais comment ça s'est passé avec ton père? Parce que lui, il était avec toi quand l'accident a eu lieu.
Ah, pauvre papa. Ben, pas pauvre dans le sens pitié. C'était un moment très difficile pour lui. Faut se remettre à l'époque, la religion est très présente dans les petits villages du Québec. Alors, tu sais, t'as besoin de support, t'as besoin de te faire écouter, t'as pas besoin de te faire dire par une autorité religieuse que si ça s'est passé, c'est parce qu'il y avait la force de passer au travers. On peut pas justifier, expliquer ce genre d'accident-là. Ça arrive, puis il faut vivre avec, tu sais, là. Fait que mon père s'est senti énormément coupable. En plus que là, vers, je sais pas, moi, 4 ans et demi, 5 ans, je vais voir papa, et puis je lui demande, mais j'ai 5 ans, là. J'ai dit, papa, pourquoi tu m'as coupé la jambe? J'ai fait quelque chose de mal. Mais tu sais, à 4-5 ans, tu te fais chicaner pour... parce que t'as brisé un jouet,
oui,
ou enfin
oui,
bref.
Oui. Puis on ne veut pas déplaire à nos parents.
C'est ça, j'ai dit, si je me suis fait couper la jambe, c'est parce que j'ai fait de quoi des
coups là.
Mais bon, là, pour lui, c'était pas facile. Mais la tristesse de mon père, le sentiment de culpabilité m'obsédait un peu. Tu sais, je me sentais, j'étais là, tu sais, je me sentais, j'avais de la peine d'y faire de la peine.
Oui.
Puis souvent, je le dis à des parents qui ont un enfant, qui est amputé, peu importe la cause. Puis ça s'applique aussi à plein de choses en tant que parent. Si tu ressens ce sentiment de culpabilité-là, il ne faut pas qu'il t'habite longtemps parce que c'est l'enfant qui va se sentir coupable après. Là.
Il va porter la charge de la culpabilité lui aussi. Mais d'ailleurs, tu lui as écrit une lettre. Est-ce que ça t'a permis de te libérer de cette charge?
En fait, je ne sais pas si c'est pour ça. C'est que j'étais dans un moment où j'avais le besoin d'écrire à mon père et puis j'y ai écrit une longue lettre. Et puis... T'sais, pour lui dire qu'il était un bon père, dans le fond. Là, t'sais que... Et puis, c'est drôle parce qu'il a reçu la lettre, il l'a lu. Puis, il dit, quand je l'ai rencontré la première fois avant, depuis l'envoi de la lettre, en fait, oui. Il a dit, ouais, t'es pas mal écriveux. T'sais, fait que c'est... Et c'est le seul contact de cette lettre-là qui est arrivé.
Oui.
Puis, pour moi, c'est très, très important qu'il ait dit ça. Là. C'est pas,
ça voulait tout dire.
Ça voulait tout dire, voilà.
Et t'avais quel âge quand tu lui as donné cette lettre?
J'avais une vingtaine d'années.
OK, quand même. Donc, oui. Plusieurs années après l'accident. Donc, c'est
resté pendant... Oui, il reste toujours des traces. Hein? Puis, je pense que cette lettre-là se voulait aussi de mettre un point final à tout ça. C'est terminé.
Mm. C'est là. Est-ce que ça... J'allais te demander, parce que je te vois, tu es avec moi, ça t'émeut de parler de ça?
Oui. Tu sais, nos parents, bon, c'est des gens qui nous habitent souvent, puis on les quitte, tu sais, dans le sens qu'on va faire notre bout de chemin. Puis c'est drôle comment présents ils sont en moi plus je vieillis.
Mm.
Alors, c'est quelque chose qui ont... Tu sais, dans le fond, tu vis tes épreuves, mais quand quelqu'un de près, comme tes enfants ou tes parents, vivent des épreuves, tu peux pas le vivre à leur place.
Non.
Faut juste rester le plus calme possible, peut-être, et être le plus accueillant. Tu sais, là, on est tous vulnérables, puis montrer notre vulnérabilité, c'est...
C'est humain.
C'est humain, voilà.
C'est humain. Hey, on va faire une petite pause là-dessus. On va aller écouter une chanson qui, justement, fait du bien.
Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour. Aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours. C'est l'amour qui gronde, l'amour avance à grands pas, détruira le monde par amour du combat. Je t'aime, tu m'aimes, il l'aime. Nous vous aimons, vous nous aimez. Ils aiment, aimons-nous quand même la mort unie sans retour. Aimons-nous, je t'aime, je te tuerai, mon amour. L'amour nous préserve des remords, de nos tueries. On tue sans réserve par amour de sa patrie. On vit sans histoire lorsque l'on vit sans aimer. L'amour, c'est la gloire, la puissance et l'amitié. Aimons sans contrainte, aimons-nous comme il se doit. Resserrons l'étreinte qui nous étouffera de joie. Je m'aime, tu t'aimes, il sait.
C'était « Aimons-nous » de Yvon Deschamps. Louis Bourassa, une chanson que tu aimes beaucoup.
Oui,
qui
oui,
t'inspire,
oui.
Surtout en ce moment.
Oui, c'est vrai. C'est, pour moi, elle est très positive, c'est cette chanson-là. Et puis, elle me fait vivre beaucoup d'émotions, mais en même temps, c'est positif tout ça.
Oui, puis c'est important d'en parler.
Mm-hmm. Ah, oui, c'est important parce qu'il ne faut pas cacher ça, il ne faut pas enfouir ça. Tu sais, trop longtemps, je pense qu'on... En vieillissant, peut-être pas en vieillissant, mais à partir de l'adolescence, on se met des interdits, puis il faut les faire tomber.
Exact. Je suis d'accord. Puis tu parles d'adolescence, tu as trois garçons qui ont tous dans la vingtaine aujourd'hui.
Oui.
Ils étudient à l'Université de Sherbrooke.
Voilà.
Donc, tu peux pas les voir en ce moment.
Non. Et ça, c'est... Il y a une partie que je vis bien avec ça parce que je me dis, hey, tu sais, là... Tu montes à tes enfants à voler, si tu veux, puis là, ils volent, puis là, ça fonctionne. Tu sais, il n'y a pas d'appel en panique pour... Non, ils ont du plaisir, ils étudient, puis ça va bien. Alors ça, c'est youpi. Puis en même temps, il y a l'autre côté, tu te dis, mon Dieu, là, je suis père, ou c'est vrai que je suis père, mais là, je me transforme plus en amoureux.
Tu sais,
parce que...
plus de temps avec
ma douce, avec Marie-Josée, oui.
Oui,
puis ça se passe bien, puis tu sais, là... Et j'avais peur, il y a plein de rumeurs en vieillissant quand les parents, tu sais, c'est dur sur le coup. Mais non, nous, ça, on embrasse ça, c'est merveilleux. Mm. Pas que je veux, tu sais, je l'aime mes enfants, là, ça, mais je veux dire, retomber amoureux. Ben, je l'étais aussi, mais tu sais, continuer dans le continuum de ça, c'est merveilleux.
D'être dans le moment présent, de profiter avec les enfants qui sont à l'extérieur, mais qui vont bien.
C'est ça, voilà. Alors, c'est du pur bonheur.
Ah, c'est beau de t'entendre, Louis. Mm-hmm. Puis je sais qu'il y a un de tes trois fils, le plus jeune, si je ne me trompe pas, qui t'a déjà posé une question jeune qui est vraiment mignonne.
Ah oui, hein. Philippe, je peux pas dire quel âge il avait, il était jeune, ça c'est sûr. Et là, lui, il a eu une période où il aimait beaucoup ma prothèse. Il faisait dodo avec.
Oh.
Pour lui, c'était... quelque chose de rassurant. Moi, c'est un petit peu agaçant quand tu cherches ton membre artificiel, mais peu importe. Et à un moment donné, il me pose la question, il dit « Papa, à quel moment les papas perdent leurs jambes? » Pour lui, c'était comme « Quand tu deviens père, bon... »
Tu perds ta jambe à un moment donné. C'est mignon.
Fait que je l'ai rassuré, puis aujourd'hui, je pense qu'il l'aime pas, cette histoire-là.
Il en est moins fier.
Oui, peut-être.
Pourtant, c'est adorable.
Mm-hmm.
On parle du positif, du bon. Il y a eu des moments où peut-être que tout le temps pour toi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des moments où le fait d'être, de porter une prothèse, d'avoir perdu ta jambe, il y a des avantages reliés à ça? Parce qu'on sait qu'il y a des inconvénients. Bon, on doit s'adapter. Une prothèse, ça ne remplace pas un membre complètement. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a des avantages pour toi?
Je te dirais que oui, on identifie mieux les relations avec les gens. Mmh. Tu sais, comme... l'été, je suis toujours en short. Et si le regard que les gens portent sur toi, c'est de même que tu t'identifies un petit peu dans les premières secondes, bien, ça filtre bien. Hein. Tu sais, là, je me souviens que je filtrais des amis au secondaire comme ça. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai. Hein? L'amputation, on la cache beaucoup moins qu'il y a quelques années. Alors, mais en fait, c'est aidant. Et aussi, briser la glace dans des groupes ou des choses qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un sujet de conversation ou peu importe. mes premières journées de classe, même jusqu'au cégep, je parlais de mon amputation dans les premières minutes.
Parce que tu sentais bien que tous les élèves dans ta classe, ils avaient les questions, leur brûlaient les lèvres. Tu étais bien conscient de ça.
Oui, c'est ça. Tu le ressens. Puis là, ben, j'ai dit, on va tout vider, là, on va tout poser ces questions-là. Et puis, c'était bien fait. C'était formateur d'une certaine façon parce que, après ça, mes emplois d'été aux amputés de guerre, je donnais des présentations dans les camps de jour et ça commençait comme ça. Là. J'ai comme créé mon poste.
Toi-même, grâce à ta prothèse.
Ouais, c'est ça.
Mais j'adore parce que pour moi aussi, c'est de cette façon-là que je le vis. Donc, on l'utilise. C'est un avantage pour nous, mais aussi pour les autres parce que, comme tu le nommes, c'est dans la relation que les moments autant agréables que désagréables peuvent arriver. Et là, on parle de ça. Je te ramène dans un sujet qui est un peu plus glissant, si je peux me permettre de dire. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on porte une prothèse de jambe, ben, il nous arrive plus souvent de tomber. Hein.
Ben,
c'est
oui,
normal
oui.
À cause de plein de raisons. Donc, il n'y a jamais une bonne façon de tomber. Ça, on s'entend, Louis.
Mm-hmm.
Mais il y a parfois des situations qui peuvent être plus délicates, si je peux le dire comme ça.
Et si je racontais toutes les histoires de mes chutes, pas qu'on tombe tous les jours, là,
non.
Je veux dire, c'est toujours, il y a toujours quelque chose de cocasse dans ma tête qui se passe. On se blesse pas la majorité du temps. Puis je me souviens d'une fois, là, j'étais dans un centre de conditionnement d'un hôtel, puis j'avais terminé. Puis là, ça va sonner bizarre, là, mais je prenais ma douche, j'ai enlevé ma prothèse. Je voulais mettre ma prothèse d'eau, je mets ma prothèse pour aller à l'eau.
Mm-hmm.
Là, en sortant, j'ai pris ma douche, là. Et puis là, je sors et je tombe. Mais là, parce que t'es amputé, tu imagines qu'on tombe jamais, tu sais, délicatement. C'est toujours... il me semble que c'est plus grand que nature.
Oui.
Puis là, il y a plein. Il y a quelques hommes qui prenaient leur douche aussi. Puis là, ils voulaient venir en aide. Moi, j'étais là, non, là, c'est trop d'eau. Il y a trop de nudité, là. Moi,
trop d'attention.
C'est trop... Non, je voulais... Je suis correct. Fait que là, bon, enfin... Mais c'est des histoires comme ça, on pourrait en raconter beaucoup, là,
oui,
tu sais.
Oui.
Mais celle-là, j'avoue que je n'avais jamais raconté aussi publiquement. Alors, désolé ou enfin, ça arrive.
Ben oui, mais je trouve que, je veux dire, les gens sont curieux d'entendre autant le... Voilà, ce qui est beau, ce qui est drôle, il faut apprendre à en rire
ça.
Aussi.
Oui,
ça,
oui, oui.
Ça fait partie du quotidien.
Il faut apprendre à en rire, puis parfois, il faut même prendre le temps de certaines situations qui arrivent, puis la virer pour que ça soit drôle, parce que tu veux pas vivre avec tout ce négatif-là. Là. Tu veux, tu sais, il faut que tu passes à autre chose à un moment donné.
Complètement. Et tu me parles de ça, quelles sont tes sources d'inspiration ou tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien?
En fait, là, pour moi, ma passion, mon travail, ça, c'est sérieux. Hein? C'est, en fait, juste par le nombre d'années et juste par le fait que je fais partie de l'association depuis 1978, par le fait que j'étais jeune adulte et j'étais aux études et qu'à toutes les fois que je voyais Marlène ou peu importe qui travaille à l'association, j'étais là, dans quoi dois-je étudier pour travailler pour les amputés de guerre? Et là, à un moment donné, ils sont devenus tannés, je sais pas. Ils ont dit, bon, là, t'as ouvert un poste, là, puis c'était un poste de porte-parole à l'époque. Et puis, je me souviens, il n'y avait pas de description de tâche. Ben oui, il y en avait une, là. Mais les points qu'il y avait, c'était comme très flou. Alors, on a tout construit ça. Et puis, alors, pour moi, c'était passionnant à partir du début.
Oui.
Et là...
Là, tu avais ta place, en
oui,
plus.
Oui, c'est ça. Et puis, je devais faire aussi quelques... Tu sais, porte-parole, mais s'il n'y a pas d'entrevue, t'es pas porte-parole. S'il n'y a rien à faire comme activité, comme porte-parole, t'es pas porte-parole. Fait que, et là, tranquillement, pas vite, comme ça, on a créé ça. Et là, c'est encore aujourd'hui. Et puis, ben, évidemment, je suis un passionné d'être papa, fait que ça, c'est merveilleux, passionné avec mon amoureuse, c'est bien. Puis, je dirais que lorsque les enfants étaient tous... J'ai trois enfants collés, là, à un moment donné, quand je ne me reconnaissais plus, tu sais, parce que tu fais juste du papa à temps plein, je me souviens que quelqu'un m'avait dit, il faut que tu trouves une activité autre juste pour...
Pour toi.
Pour moi. Puis, je me suis rappelé que j'aimais les échecs quand j'étais jeune adolescent. Puis, je me suis inscrit à un club d'échecs. Et puis là, cette passion-là, tu es capable de la vivre en parallèle. Elle ne vient pas nécessairement t'empêcher d'être père.
Mm-hmm.
Alors, c'est un peu ça.
Et j'aime ton expression « faire du papa à temps plein
». Oui, c'est...
Je retiens ça. Est-ce que, Louis, des fois, tu regrettes ta jambe ou est-ce que des fois, tu t'imagines, tu dis « Ah, si j'avais mes deux jambes, je ferais plus de choses ou je ferais les choses différemment. » Est-ce que ça te passe...
Ça ne m'a jamais vraiment passé souvent dans l'esprit. Je me souviens juste une fois, c'est ma femme, ma douce, qui me demande « T'es-tu déjà vraiment posé la question si tu avais deux jambes? » Alors là, je me suis vraiment questionné longtemps. Puis là, je suis arrivé avec plein de si. Si tu me donnes une jambe qui n'est pas aussi forte que l'autre, parce que là, ça ne me tente pas de faire de la réadaptation, non, j'en veux pas. Si ma jambe n'est pas aussi forte, avec plein de si comme ça, puis après ça, je me suis dit, là, je suis obligé de répondre à la question, là, que si j'en veux-tu une autre vraie jambe ou pas, tu sais. Puis j'ai dit, je pense que la seule chose que ça changerait, c'est complètement mon caractère dans la mesure où j'arrêterais pas de courir. Si je me souvenais qu'avant, j'avais une jambe artificielle, puis là, on me donne... Là, je ne serais jamais à la maison. Je serais tout le temps en train de courir.
Parce que t'aimes faire de la course,
oui, c'est ça.
Fais.
Oui, oui, je fais de la course. Fait que, mais là, j'en ferais beaucoup plus longtemps. Alors, je pense que je ne serais vraiment pas le même Louis.
Mm-hmm.
Parce que, non, ma jambe, c'est ma jambe artificielle. C'est, je l'aime comme ça.
J'adore. J'adore ton
Allez-vous comprendre?
Moi, je peux dire que je te comprends complètement, Louis. On aime nos petits morceaux de plastique et de métal
ça,
parce
oui.
qu'on y a un lien, il y a presque une relation qui se développe avec nos prothèses.
Notre morale vient tellement de changer lorsque la prothèse est brisée. On ne parle pas c'est de vrai. Se blesser, là, on parle non. juste le pied cassé. Ah non, chenoute. Tu sais, là. Alors là, c'est tout un. C'est juste un pied de plastique, ben en fait, de caoutchouc, et on veut pas qu'il brise. C'est
non.
comme un vrai pied.
Oui, il est toujours avec nous, matin, ouais. midi, soir, et il nous suit partout où mm-hmm. on va. Louis, il reste déjà seulement 2 minutes ouais. à l'entrevue, mais je veux absolument t'entendre, parce que de par ton expérience et ton poste de directeur du programme Les Vainqueurs aux amputés de guerre depuis des années, quel conseil est-ce que tu donnerais à ceux qui ne s'assument pas, qui sont pas bien dans leur peau?
J'avais déjà reçu cette question-là d'une personne qui avait un sérieux problème d'estime de... Ben, problème... En tout cas, son estime de soi n'était pas... Puis je lui avais dit simplement, regarde-toi longtemps dans le miroir. J'avais dit ça, puis ça, là, ça ne changera pas. Ça va être toi. Fait que tu te vois toi beau ou tu te vois toi autre chose, mais tu t'es beau. Tu ne peux pas être laid. Dans ma tête, c'est impossible. Tu sais, ça ne rentre pas dans l'équation. Tu vas vivre avec toi toute ta vie. Fait que... Alors, regarde-toi dans le miroir, puis quand ça va passer, là, tu vas être prêt.
Donc, c'est petit à petit, confiance au temps, tranquillement, lentement, mais sûrement.
Oui, oui, le temps a une relation là-dedans, aussi. Il rentre dans l'équation, c'est vrai.
Merci infiniment, Louis Bourassa. Mm-hmm. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Je tiens à dire que tu es un mentor et un magnifique modèle pour moi, mais pour tous les autres, pour tous les jeunes, tes collègues, tes amis, ta famille, tes enfants, toutes les personnes qui t'entourent, tu es une personne en or, mon cher Louis.
Merci beaucoup.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, on rencontre Lucila Guerrero. On se retrouve tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille ici présente et je reçois ma deuxième invitée. Une personne qui est pleine de talent, j'ai envie de dire. C'est une artiste professionnelle multidisciplinaire. Elle est mentor, père aidante, co-chercheuse, artiste photographe, autrice et cofondatrice de Haute Créatif. Et c'est nul autre que Lucila Guerrero. Bonjour Lucila.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir. Lucila, vous êtes ici avec nous aujourd'hui pour parler d'autisme.
Oui.
Parce que, en fait, vous êtes auteur de 3 livres que je vais nommer tout de suite. Donc, c'est Neurodiversiné, Lundi, je vais être Lucas et Aimé dans l'imbroglio. Donc, vous êtes autiste?
Oui, je suis autiste moi-même, je le suis à l'âge adulte. Donc, j'ai vécu une grande partie de ma vie à me poser des questions par rapport à ma façon d'être.
Mm-hmm.
Quand je suis que je suis autiste, ça a été le point de départ pour me comprendre, pour comprendre mon passé, mon histoire de vie. Et j'ai appris beaucoup de choses, pas seulement par les lectures, par les rencontres avec d'autres personnes autistes et par mon implication dans la communauté. Et c'est la raison d'avoir publié mes livres, d'impliquer dans la recherche et d'avoir cofondé un organisme.
Aussi, donc, hôte créatif. Mais quelle est ta propre définition, Lucilla, de l'autisme? Comment tu l'expliques dans tes mots aux autres personnes?
Dans mes propres mots, parce qu'il n'y a pas une définition, un consensus qui la science nous offre, mais je dirais que l'autisme est une variation de fonctionnement. Pour certains spécialistes, ça serait un fonctionnement perceptif différent, mais avec la même performance pour effectuer des tâches de non-autistes. No? On fait la même chose, sauf que d'une façon différente.
Et donc, ça peut se traduire, on parle beaucoup, on entend beaucoup dire dans les interactions et au niveau de la communication. Donc, ça ressemble à quoi? Comment est-ce que ça peut se manifester?
Dans la perception, par exemple, et dans la vie quotidienne, je dirais, on peut avoir des défis d'adaptation à un environnement qui n'est pas, qui pourrait nous agresser. Par exemple, les bruits, tout ce qui est visuel, chargé, les odeurs, les sensoriels. Pour donner un exemple, pour moi, le fait d'être dans un centre commercial, fin de semaine, très bruyant et avec beaucoup de mouvement de gens qui se déplacent, ça peut être épuisant. Également, quand je me déplace et je prends l'autobus, le métro ou les bruits de l'autoroute, ça prend déjà beaucoup de mon énergie et ça peut être très pénible. Et même si toutes les personnes autistes ne fonctionnent pas de la même façon et n'ont pas les mêmes caractéristiques, l'un des défis quotidiens, c'est l'aspect sensoriel, de nous adapter.
Oui, donc vous êtes en constante adaptation du fait que vous dites qu'il y a un certain épuisement parce que vous êtes sursollicité par tous les éléments qui vous entourent. Quels sont les besoins d'une personne autiste dont les gens à l'extérieur ne sont pas nécessairement conscients? Vous allez me dire, chaque personne autiste est différente, mais vous dites dans vos livres, par exemple, que de quoi a besoin une personne autiste pour être mieux? C'est pas nécessairement d'un traitement médical ou d'un suivi. C'est quoi les besoins principaux?
Je pense qu'on doit miser sur une approche sociale. Et pour commencer, pour un traitement respectueux de l'autisme, de ne pas voir comme une condition qui fait de nous une personne inférieure ou pas capable. Et ça, c'est la première chose. Utiliser un langage respectueux quand on s'adresse à une personne autiste. Et aussi, l'écouter et essayer de comprendre ce que la personne veut dire. Comment elle s'exprime dans sa manière peut-être considérée atypique, dans sa manière de communiquer, qu'est-ce qu'elle veut dire, quels sont ses besoins et les reconnaître. Par exemple, si une personne autiste dit « j'ai mal quand on me touche » et dit « non, je te fais pas mal quand je te touche », c'est vraiment nier la souffrance
de la
personne.
Oui.
Oui. Donc, et aussi, je pense que partir de ce que la personne veut, qu'elle exprime, est pour ensemble construire des adaptations pour faire son environnement plus agréable, améliorer sa qualité de vie, son quotidien.
Oui, complètement. C'est parce que c'est très important et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que on en entend quand même beaucoup parler de l'autisme, mais sachant que chaque personne est différente, je trouve que c'est important d'entendre le plus de personnes possible et le plus de témoignages, parce que toi, Lucilla, tu as appris que tu étais autiste jeune.
Non, c'était en fait à l'âge adulte, il y a 10 ans déjà, mais c'était quand je suis devenue maman. Et mon fils est aussi diagnostiqué autiste, mais quand il était très petit, je ne me rendais pas compte qu'il avait des caractéristiques de l'autisme. Je disais qu'il ressemblait à moi, que c'était sa personnalité. Et il y a une histoire que je raconte dans mon livre « Lundi, je vais être Lucas » qui elle avait décidé de changer son prénom et qu'on l'appelle « Train Bleu ». Et c'est la raison d'aller consulter parce que ça devenait long. Et à partir de ça, on m'a posé plusieurs questions, j'ai répondu et ça nous a amené à la déclaration que nous sommes autistes les deux.
Est-ce que ça fait du bien, parce qu'on parle souvent de quand on reçoit un diagnostic, pour certaines personnes, c'est une moins bonne expérience, mais pour d'autres, oui. Pour toi et pour ton fils, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était dans des belles circonstances quand vous avez reçu votre diagnostic?
Oui, et j'ai eu la chance de recevoir un diagnostic de façon bienveillante et respectueuse. La personne qui m'a évaluée ne m'a pas parlé comme une personne malade, ni à traiter, ni à normaliser. Et il m'a dit, voilà, tu es autiste, continue tes passions, je t'encourage à faire ce que tu veux faire. Et c'est de cette façon que je commençais un parcours pour continuer à me connaître et pour évoluer positivement. Il y a 10 ans, je n'étais pas la même personne. J'avais beaucoup avant de savoir que je suis autiste. Je ressentais beaucoup la culpabilité parce que je ne me sentais pas à l'auteur de cette personne.
Mm-hmm.
Et donc, savoir que je suis autiste, c'est aussi me dire, c'est juste ma nature, c'est mon fonctionnement, il n'y a rien de mal.
Oui, parce qu'avant d'être autiste, on est tout d'abord un être humain.
Oui, c'est ça.
Mais ça n'a pas toujours été facile.
Oui. Et l'être humain, la nature de l'être humain, c'est la diversité. Précisément, il n'y a pas de personne égale, non? C'est dans son fonctionnement. Chaque personne est unique. Et les autistes, on se ressemble plus parce qu'on partage des caractéristiques comme la perception ou aussi dans la communication que ça pourrait être plus directe, plus informative que la communication sociale.
Mm-hmm.
Et aussi, on partage une expérience de vie, de stigmatisation, de violence, des épisodes de violence, des épisodes où on a été rejeté, jugé par notre façon d'être.
Oui, et ça, c'est malheureux parce qu'on essaie de tout faire pour aller à l'inverse, en fait, pour l'inclusion. Mais tu me parles de stigmatisation parce que tu es une artiste photographe. Est-ce que dans ton métier, mais qui est aussi ta passion, tu vis cette stigmatisation?
Je ne sais pas très clair. Moi, je m'exprime pour viser les préjugés, les stigmatisations. Maintenant, comme photographe, des fois, j'ai eu l'impression qu'on me sourit quand je dis photographe, mais si j'ajoute, je suis photographe et autiste, et la personne ne va pas revenir pour me confier son contrat de mariage, nécessairement, parce que peut-être qu'elle a des préjugés ou elle a des craintes que ça ne va pas être bien fait. Pas de confiance que un autiste pourrait être capable de faire quelque chose de très beau, ou un travail académique aussi. On pourrait douter de notre capacité. Et c'est pas la faute des gens, c'est vraiment qui ça vient de l'histoire de l'autisme quand on a commencé à parler d'autisme. Et c'était considéré comme une maladie rare. Et même on a dit de nous que nous sommes de personnes physiques, mais que nous sommes personnes vides à l'intérieur. Donc, il y a tout ce discours historique déshumanisant qui précède à la notion d'autisme actuel, mais il y a des idées qui restent encore dans la pensée, des gens.
Oui, il y a encore énormément de sensibilisation à faire au niveau des tabous et des jugements. Parce que on peut dire c'est humain aussi de juger, mais il faut quand même, il y a une limite quand même à tout ça. Et d'ailleurs, tu accordes beaucoup d'importance aux mots qu'on utilise.
Oui, parce que le mot peut blesser. Et justement, hier, j'ai assisté à une conférence où il disait, si on mettait l'exemple, si on voudrait créer un terroriste, on va le traiter de terroriste. Et si on l'applique à n'importe quel être humain, si on va le traiter d'incapable, peut-être qu'il va finir pour croire qu'il n'a pas de force. et il va lui-même se stigmatiser parce qu'il a été traité comme ça, comme s'il n'était pas bon, comme s'il est méchant, agressif, les objectifs que, mm-hmm. qu'on va lui poser. Donc oui, les mots sont importants parce que ça peut briser aussi l'estime de soi d'un groupe minoritaire.
Oui, et c'est important de prendre soin de l'estime de soi, la confiance en soi. C'est étroitement lié avec la santé mentale, oui. Ce dans quoi tu es très, très, très impliqué et engagé. Je propose qu'on fasse une petite pause et on continue d'en parler tout de suite après.
Oui, d'accord.
Je t'aime pourtant, je dis quand même, tu sais, tu sais, tu sais. Tu dis que sur la terre c'est moi que tu préfères, que nul ne peut te plaire, qui sait, qui sait, qui sait. Frivole dans sa robe, tourne et vole. Ce baiser que tu oses voler sur sa joue rose, tu dis c'est peu de chose. Qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que dans la danse, les tendres confidences n'ont guère d'importance. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. La preuve, il coupe un sage frôlant son doux corsage, lequel est le moins sage. Qui sait, qui sait, qui sait. Pour peu que l'amour
c'était les sœurs Étienne et leur chanson « Qui sait, qui sait, qui sait ?» Et telle est la question. Et on est toujours en compagnie de Lucila Guerrero. Lucila, tu es la cofondatrice de Haute Créatif. Quelle est la mission de Haute Créatif?
Haute Créatif est un organisme sans but lucratif pour et par des personnes autistes. Il est né en 2013 comme un mouvement de personnes autistes pour la reconnaissance positive de l'autisme, avec un manifeste. Et aussi, on a produit un guide de terminologie respectueuse et plusieurs articles communiqués pour prendre la parole et pour aussi montrer ce qu'ils font les autistes socialement, comme apportent à la société dans différents domaines du quotidien, non? Et dans différents milieux aussi. D'ailleurs, nous venons de publier un livre collectif qui s'appelle Notre richesse. Et nous contestons aussi les discours négatifs qui parlent à propos de nous comme si c'était une catastrophe, une tragédie d'être autiste. Donc, on valorise la personne autiste et on montre les côtés de force.
Oui. Et donc, Aude Créatif, est-ce qu'il y a un site Internet ou une page que les personnes peuvent aller consulter?
Oui, il y a un site web, c'est www.audecreatif.com. Et sur le site web, on peut lire tout ce qu'on a publié, aussi les profils des personnes autistes qui sont membres.
Mm-hmm.
Et les personnes autistes adultes sont les bienvenues à devenir membres si ils se sentent d'accord avec notre valeur. C'est ça.
Oui, parce que plus on est nombreux, plus on est solidaire, et bien plus le message va avoir une plus grande portée, le message va être pouvoir plus puissant, et surtout la sensibilisation, on y revient toujours. Et je mentionne oui. que haute créatif, eh bien, ça vient du mot autisme, donc AUTCREATIFS. Et Lucilla, donc tu parles évidemment, hormis les jugements, mais les côtés positifs et les forces que les personnes autistes ont, quelles sont en général les grandes forces d'une personne autiste?
Je dirais, nous avons tendance à avoir des intérêts précis, par exemple. Et ça peut faire une force quand on devient expert dans le sujet de notre intérêt. Par exemple, si je me permets de prendre mon expérience personnelle, mm-hmm. j'ai découvert la photographie en 2004 et j'étais tellement fascinée que j'ai commencé à pratiquer la photo à tous les jours et ça a été un apprentissage empirique et très lent. Mais en 2010, j'avais déjà participé, montré mes photos, échangé, reçu des retours. J'étais prête à devenir artiste professionnel en photographie et j'ai eu ma reconnaissance professionnelle en 2013. Mm. Et en même temps, c'est une façon de m'exprimer, ça a été un outil pour militer en tant qu'artiste.
Oui.
Donc, un intérêt spécifique peut nous aider aussi à montrer qu'on est capable de mettre en place un projet, qu'on peut apprendre sur ce qui nous intéresse mm-hmm. et qu'on peut partager avec les autres et partager notre message, nous exprimer à travers quelque chose.
Et donc, c'est pour ça que pour toi, Lucilla, les arts visuels, la photographie, mais même à travers les livres que tu as écrits, tu partages justement ton art à toi. On peut voir des photos que tu as prises et entre autres dans le livre Neurodiversiné, donc qui fait référence à la neurodiversité, qui est un message magnifique. Ben, en fait, il y a tellement de belles réflexions et de beaux messages que tu partages dans ces livres-là. C'est vraiment un moyen pour toi de t'exprimer.
Oui, je voulais, et c'est pour les dernières, c'est une usine de 24 pages, et je voulais expliquer de façon très, très simple ce qui est l'autisme avec les connaissances actuelles, et dans une vision de neurodiversité. Et donc, j'ai mis aussi de la poésie, et j'ai mis des textes très courts, des images. Tout ça, je voulais les faire de façon très, très simple pour passer un message. Et aussi, par exemple, mon projet Aimer dans l'imbroglio, qui a commencé comme un projet de photographie pour explorer l'amour et les personnes autistes. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à écrire aussi après toutes les rencontres pour les séances de photos.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai décidé d'écrire aussi des textes pour explorer l'amour, pas seulement l'amour qu'on ressent, parce qu'on ressent de l'amour sans aucun doute, mais aussi l'amour qu'on reçoit et de la façon qu'on le reçoit. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne se sent pas aimé, quand on perd notre estime de soi.
Oui.
Et donc, ça nous fait réfléchir, et on revient aussi à la santé mentale, parce que ça nous fait réfléchir que si on perd l'estime de soi, on peut développer des conditions telles que la dépression ou l'anxiété ou autre. Et d'ailleurs, la recherche nous dit que le suicide est l'une des causes de mortalité prématurée à l'autisme. Donc, ces conditions de santé mentale sont bien réelles et présentes.
Oui, et c'est important même de le mentionner que 70% des autistes, des personnes autistes, développent des problèmes de santé mentale. Donc, c'est un sujet qui est très sérieux.
Oui. Et aussi, dernièrement, la recherche s'est intéressée à une approche sociale et regarder ces problèmes de santé mentale, pas d'une vision biomédicale, sinon à partir d'un modèle de stress de minorité. Et donc, ça serait des facteurs comme la discrimination quotidienne, le rejet, la stigmatisation, qui vont favoriser le développement des conditions de santé mentale.
Oui.
Donc, la détresse, une faible estime de soi.
Et l'estime de soi, la détresse dont tu parles, Lucilla, tu l'as toi-même vécue dans ton adolescence à l'âge de 15 ans. Tu as eu malheureusement des problèmes d'anorexie.
Oui. À l'âge de 15 ans, j'ai fait une forte dépression accompagnée de l'anorexie. Et j'ai voulu, à l'époque, je voulais absolument mourir, me laisser mourir. Et donc, ça a pris des années à guérir l'anorexie, mais de penser sur le sens de la vie, de penser de mourir, sont restées pendant des années. Et je ne sais pas, une vingtaine d'années. Peut-être, c'est quand je suis devenue maman, que ça finalement aidé à m'attacher à la vie parce que j'avais finalement un sens de vivre que c'était accompagner mon fils dans son développement. Et dans ce moment, c'était l'inverse. Je voulais être bien, je voulais être en santé, je voulais vivre longtemps pour être avec lui. Et également, l'effet d'être militante, d'avoir des projets, tout ça, ça donne du sens à ma vie aussi. No? C'est en même temps, j'étais pour changer la perspective de l'autisme pour l'acceptation, mais aussi ça donne un sens que je suis en train de contribuer à améliorer les connaissances en lien à la qualité de vie des autistes.
Complètement. Et d'ailleurs, dans le livre Aimé dans l'imbroglio, tu parles de l'injustice dans les écoles parce que tu le vis avec ton propre fils qui a quel âge d'ailleurs?
Maintenant, il a 15 ans.
15 ans.
Oui. Mais oui, il a une période très difficile à l'école où on ne comprenait pas les manifestations autistiques. Par exemple, faire de l'école à lui. Et on pensait qu'il se moquait de cette personne parce qu'il répétait, et quand il était anxieux, il répétait la phrase qu'il entendait et on disait « il se moque de nous ». Aussi parce qu'à l'époque, à certaines époques, il avait mal quand on le touchait, mais on ne le croyait pas. Donc je comprends que c'est difficile pour les personnes non autistes de comprendre que ces choses pourraient être réelles, mais donc, on le punissait. Et donc, il était vraiment avec son estime de soi brisée au point de me demander de le lancer par le balcon. Oh, je voulais mourir.
Oh, non,
et donc, ça, nous avons changé d'école. Et la nouvelle école n'avait pas une équipe en autisme. Mais il y avait beaucoup d'ouverture d'esprit et beaucoup d'écoute pour travailler avec moi aussi en équipe. Et donc, lui, il a bien été, il a continué dans cette école régulière sans accompagnement spécial autre que le personnel régulier. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir que des fois, c'est pas tout le monde qui connaît bien les caractéristiques d'une personne autiste, mais si tout le monde développe une ouverture d'esprit pour reconnaître que chaque personne est unique, que chaque personne a des besoins différents, que chaque personne a une perception différente, que peut comprendre ou s'exprimer de différentes façons, et ça va améliorer les relations humaines finalement.
Complètement. Je trouve que c'est un magnifique message parce que je pense qu'on le répétera jamais assez souvent. On est tous différents et en plus avec une particularité, un handicap, peu importe notre différence, eh bien, ce qui est important, comme tu le dis si bien, Lucilla, c'est l'ouverture d'esprit, la communication, parce qu'on voit bien que, par exemple, les jeunes vont moins être capables de reconnaître quels sont les comportements d'une personne autiste. Tu me dis que ton fils se fasse punir alors que il peut pas faire autrement que d'être lui-même. Bravo Lucilla pour tout ce que tu fais, ton implication et ton dévouement. Et je te souhaite que tous tes projets aient très 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 loin.
Ah, merci beaucoup.
Merci Lucilla. Et pour ceux qui sont intéressés à acheter les livres de Lucilla, vous pouvez aller sur son site internet qui est le www.lucillaguerrero.com avec mon accent bien sûr. Alors écoutez, merci beaucoup à toute l'équipe, merci à vous, merci à Mathieu Tessier qui a la mise en onde, à Claire Guérin, notre recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté à l'habillage sonore, et n'oubliez pas le site www.canalm.vusezvoix.com pour écouter l'émission ou la partager, et aussi les plateformes de diffusion de balado. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.